Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale, le gentil Anne La France avec vous, accompagné de Myriam Leland à l'animation. Et on a également deux autres personnes avec nous en studio. Il s'agit de Charlotte, notre chroniqueuse, et qui a invité Philippe Gagnon à venir parler de son projet de fin de maîtrise, je crois, si je ne m'abuse. Donc, un projet de fin de maîtrise qui a eu lieu autour de l'École d'art.
Oui.
À côté de l'École d'art.
À côté de l'École d'art.
Donc, Philippe Gagnon qui aime bien s'amuser avec les institutions en art et qui continue à le faire avec joie. Donc, je vous lance dans votre conversation, Charlotte et Philippe.
Oui, merci beaucoup. Donc, l'exposition présentée par Philippe Gagnon qui s'appelle « Le carnaval pour célébrer le 52e anniversaire de l'École d'art ». Alors, déjà, bon, petite anecdote personnelle, Philippe est un camarade de maîtrise. Donc, je le connais depuis 3 ans, j'ai pu voir un petit peu son travail évoluer ces dernières années. Donc, c'est vrai que c'est toujours, voilà, pour moi déjà, je suis très heureuse, c'est toujours surprenant et intéressant de voir un petit peu comment est-ce que tout ce travail a pu aboutir à cette exposition-là. Et donc, Philippe Gagnon, que j'appelais, en le taquinant gentiment, le petit trublion de notre promotion.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Notre vocabulaire n'est pas assez riche pour comprendre ce mot.
On va voir ça. Mais effectivement, tu parlais de taquinerie, en tout cas qu'il aime bien jouer avec les institutions. Puis Philippe Gagnon, je vais même le citer, il parlait de taquinerie institutionnelle quand nous étions à l'université. Et donc, bon, alors on va revenir sur cette exposition-là, qui est présentée effectivement alors à la Galerie des Arts Visuels, mais qui s'est un petit peu parée d'un masque, cette fois-ci, qui a été déplacé, on va dire, qui n'a plus vraiment le même visage. On va parler de ça un petit peu tout à l'heure, mais avant ça, j'aurais aimé revenir avec Philippe un petit peu, justement, sur tout ce processus de ces 2-3 dernières années qui a permis d'aboutir à la présentation de cette exposition-là, des idées clés autour desquelles tu gravites, de tes questionnements, de ce qui t'anime. Donc voilà, je te lance, si tu veux, sur ton idée de taquinerie institutionnelle, par exemple.
Oui, la taquinerie institutionnelle, c'était en réponse à la critique institutionnelle. Oh, on m'entend.
Oui, on t'entend bien.
Dans le fond, c'était une réponse à la critique institutionnelle parce que je trouve que la critique, en fait, est certaines problématiques, tu sais, qui est-ce que je suis pour critiquer une institution dont je ne travaille pas, tu sais, où je ne travaille pas là, où je ne fais pas partie de l'intérieur, tu sais. Je pense que c'est les organismes, entre autres les organismes culturels, peuvent très bien trouver des solutions eux-mêmes, puis, tu sais, je veux dire, les institutions sont habitées par des personnes comme vous et moi, qui sont créatives, changeantes, avec des valeurs et qui font de leur mieux. Fait que cette personne là peuvent très bien trouver une solution à leur problème. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, ce que j'amène en opposition à la critique, c'est l'idée du jeu, dans le fond. C'est d'utiliser les éléments en place, de jouer avec ces éléments-là pour arriver avec un résultat qui fait voir la problématique, si c'en est une, c'est même pas obligé d'être une problématique, mais qui fait voir l'institution, qui fait voir la matière d'un autre angle. Fait comme ça rafraîchit l'objet, ça rafraîchit le sujet pour que ces personnes-là, possiblement, si ça leur tente, trouvent une solution ou problématisent même leur truc.
L'institution devient comme un matériau à part entière, au-delà même, enfin, plus qu'un sujet. Enfin, en tout cas, là, c'est le cas dans ce que tu nous proposes.
Oui, ben c'est ça. Pour moi, l'institution ou les institutions, en fait, c'est vraiment des matières. Tu sais, il m'est arrivé de collaborer avec des institutions, il m'est arrivé d'intervenir ou de m'infiltrer ou d'essayer de m'infiltrer. Il m'est arrivé d'en générer des nouvelles qui se voulaient un peu alternatives, mais qui finalement étaient en réaction à... étaient dépendantes d'autres institutions. Mais pour moi, les institutions, c'est vraiment une matière qui est essentiellement relationnelle. Tu sais, je veux dire, ça reste des gens. Tu sais. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on interagit avec une institution, on interagit avec des personnes en particulier. Puis, chaque personne est différente. Tu sais, par exemple, si j'approche une personne X plutôt qu'une personne Y, peut-être que cette personne-là va être beaucoup plus ouverte à me laisser entrer par des voies qui sont comme...
qui sont pas l'appel de dossier.
Qui sont pas des appels de dossier ou qui sont juste complètement bizarres. T'sais, ça dépend vraiment des gens. Puis, c'est ça.
Parce que par exemple, on pourrait donner un exemple très concret, ta voiture est devenue un lieu d'exposition, c'est
oui,
ça
oui,
comme
ma
une
voiture,
institution ambulante, on peut le dire.
Oui, ma voiture qui est une Hyundai Accent 2004, je tiens à le préciser.
Merveilleux.
Mais qui s'appelle La Garrigue t'offre pas 3 ans, puis qui, d'ailleurs, j'ai appris récemment qu'elle avait une grosse fuite d'huile, puis ça se peut qu'elle ne se rende pas à l'hiver.
Elle
mais oui.
Réellement pas trop.
Non, 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 c'est ça. Elle n'aura pas le temps de s'instituer fort, fort. Mais oui, dans le fond, voilà, peut-être un an et demi, 2 ans, j'ai transformé ma voiture ou, bref, j'ai comme, si on veut, fondé la Garrigue qui t'offre pas 3 ans, qui se veut être une Garrigue qui explore l'informel, puis un peu ce que les institutions ne feraient pas nécessairement parce que c'est trop improductif, risqué ou stupide carrément. T'sais, d'explorer, mettons, des expositions dans des apparts, dans des cours à vin, dans des ateliers collectifs, t'sais, des trucs qui remettent un peu en question la reconnaissance de l'artiste, mais qui font les choses un peu différemment, t'sais, qui amènent d'autres manières de faire. Puis l'idée, c'était vraiment ça. T'sais. Puis la première année, surtout, c'était beaucoup l'idée d'explorer l'informel, t'sais, d'explorer l'amitié, les réseaux. T'sais. Qu'est-ce que ça fait quand une exposition est vue seulement que par 20 ou 30 personnes? T'sais, ou, puis c'est la plupart des amis ou des connaissances qu'on a croisés. Qu'est-ce que ça fait quand les communications sont faites par bouche à oreille? Ou quand il n'y a absolument aucun site ou aucune promotion du truc? T'sais, je pense que ces questions-là sont vraiment le fun à explorer sans... La question de l'élitisme est venue une couple de fois, mais tu sais, en fait, les communications qui se faisaient par bouche à oreille, c'est les gens qu'on croisait. Il n'y avait aucune élite du milieu culturel dans ces expos-là. C'était vraiment comme les gens intéressés ou les gens qu'on avait croisés, les voisins.
Puis en même temps, ça amène une réflexion aussi sur l'élitisme au sein de l'institution, parce que c'est quand même bien présent, même s'il y a des communications qui se font dans des canaux qui sont pas dédiés habituellement aux arts visuels, ça reste, même ici à l'aérospatiale, notre public est majoritairement composé d'artistes et de travailleurs culturels.
C'est grosso modo les mêmes gens qu'on croise dans les vernissages.
Exactement, donc probablement les mêmes gens qui ont été invités dans ce bouche-à-oreille-là. Donc, c'est peut-être toute une question d'intention aussi et de présentation quand il y a les subventionnaires qui entrent en ligne de compte aussi. C'est toute cette manipulation non intentionnelle probablement là, mais de comment on présente les choses qui peuvent être sensiblement la même chose, mais dont la manière dont c'est présenté.
C'est comme les discours des institutions un petit peu.
Oui, c'est ça, discours des institutions, discours des artistes aussi. Puis c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas nécessairement une critique, mais bien une réflexion qui peut qui peut émerger de projets comme ça. Sur cette note, on va se laisser sur une petite pause musicale et au retour, on continue cette entrevue avec Charlotte Cougnon et Philippe Gagnon. Re-bienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland, toujours au micro, accompagnée en studio d'une belle gang. Jean-Tiens de la France, ma co-animatrice.
Allô?
Charlotte Cougnon, notre chroniqueuse de la semaine, qui désirait recevoir Philippe Gagnon en entrevue.
Ah oui.
Et juste avant cette pause musicale, on parlait un peu de l'élitisme possible dans différentes manières de faire, que ce soit des institutions, des artistes. Et Philippe, je crois que tu avais envie de répondre un peu là-dessus.
Oui, ben en fait, pas nécessairement sur l'élitisme, mais sur le discours qui entoure les œuvres ou les expositions. Tu sais, j'ai l'impression que tu parlais, entre autres, d'appels de dossiers. Tu sais, pour moi, les appels de dossiers, c'est de travailler le discours qui enrobe le projet pour le présenter d'une manière X ou Y. Tu sais. Puis, même chose pour la médiation qu'il y a pendant le projet. Je veux dire, on peut orienter la lecture d'une exposition en changeant le discours ou en... Tu sais, ça dépend du public qu'on a, ça dépend des visées. Il y a une intention derrière la médiation. Puis même après le projet, la documentation puis l'archive devient une manière encore de rediriger le discours pour faire dire ce qu'on veut finalement à l'exposition puis à l'œuvre. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis justement, l'exposition Carnaval pour célébrer le 52e anniversaire de l'École d'art, ça devient un peu un jeu autour de ça. T'sais, comment est-ce qu'on présente une exposition puis comment est-ce qu'on dirige les lectures un peu? T'sais.
Oui, c'est ça, parce que tu le mentionnais, il y a toujours des humains dans ces institutions-là. Puis même si parfois on essaie de tendre à la neutralité ou en tout cas de feindre la neutralité, ça reste qu'il y a toujours des êtres humains derrière la lecture proposée, derrière les communications, documentation, comme tu l'as mentionné.
Oui. Mm-hmm. Ben oui, puis dans le cas de cette exposition-là en particulier, au départ, j'avais proposé une collaboration même avec Lisanne Nadeau, qui est la directrice de la galerie
des arts visuels.
Puis c'est ça, on a vécu, tu sais, là, je spoil un peu peut-être tes questions, Charlotte.
Mais je t'en prie, tu te débrouilles tellement bien.
mais à un certain point, on avait prévu faire une certaine exposition, puis est arrivé des rénovations à la galerie. Et il a fallu trouver un nouvel espace. Puis c'est ça, on a vécu le processus de changement d'espace en collaboration avec chacune nos hauts et nos bas et nos stress. Puis c'est ça, ça a donné vraiment comme la matière première pour l'exposition, là. Mais ça s'est passé dans une collaboration, en fait, puis moi j'aime ça voir ça comme une collaboration entre la galerie qui t'offre pas 3 ans et la galerie des arts visuels, tu sais, même que dans l'exposition, le char ou la voiture est dans la galerie.
Elle est encore là, actuellement?
Non, là, elle est sortie, mais elle va revenir. Au garage.
Mais il y a encore des petites traces de pneus, des petites taches d'huile par terre.
Ouais, c'est ça.
Ouais, des résidus de galerie dans la galerie.
Une odeur derrière elle.
Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, effectivement, si on parle vraiment de l'exposition que l'on va voir, donc on entre dans un espace qui est plutôt un espace, donc... Comment on pourrait le définir? Un espace plutôt industriel?
Oui, en fait, c'est les anciens locaux des copies de la capitale qui sont vraiment l'autre côté du mur de la galerie des arts visuels. Mm-hmm. Fait qu'il se crée comme un espèce de petit effet miroir là, mais c'est des locaux qui sont essentiellement industriels, tu sais, comme plancher en béton.
Puis ça a été la gare d'autobus aussi à une certaine époque.
Ça a été en effet la gare d'autobus. Mm-hmm. Ça, je trouve ça vraiment pertinent.
Il y avait des petites télés avec des petites 25 cents. On prenait des petites 25 cents.
Ah ben là, t'as des souvenirs que je n'ai pas. mais oui, tu sais, c'est essentiellement un lieu industriel. Puis l'idée, c'était de déplacer la galerie des arts visuels, qui est une institution, comme un peu un espace qui n'est pas totalement un white cube, mais qui se veut être très proche d'un white cube.
Qui t'envers ça,
en forme de travestissement, un peu, on pourrait dire.
Je ne sais pas si j'irais jusqu'à là, mais l'idée, c'était vraiment de surimposer, comme de superposer plutôt la galerie des arts visuels et son white cube et son espace sur un lieu industriel qui n'est pas institutionnel d'habitude. Puis, sachant très bien que ça se peut pas, tu sais, je veux dire, pour l'exposition, j'ai utilisé des draps blancs, un peu comme un genre de fantôme à l'Halloween, où, tu sais, on a caché des tuyaux avec des draps, c'est fait tout croche, mais tu sais, sachant très bien que, anyway, ça se peut pas, tu sais, fait que il y a beaucoup d'humour aussi là-dedans.
D'ailleurs, si on parle vraiment de qu'est-ce qu'on voit quand on se promène dans l'espace, donc, on a effectivement ce white cube, cet espace dans lequel on peut déambuler. Sur le mur à droite, on a une sorte de grande frise chronologique qui reprend tous les événements un petit peu marquants, on va dire, de la mise en place de cette exposition et donc de cet événement qui t'est arrivé, qui tombait à pic presque pour toi, de déplacement de lieu. Et donc, tu as dû t'adapter avec Lisanne à cet événement-là. Et donc, il y a une frise chronologique comme ça de tout ce qui s'est passé lieu cette exposition.
On est dans la médiation, là.
Oui. Ben c'est en effet une grande ligne du temps qui replace finalement les événements avec des dates. Puis, mais c'est fait très objectivement, contrairement aux autres textes, si on croit en l'objectivité, là. Mais, puis en effet, ça parle de l'événement du changement d'espace à cause des rénovations. Puis, tu sais, j'ai l'impression que le projet initial, en fait, ça tournait beaucoup autour de comment est-ce qu'une institution peut générer du discours et comment elle peut générer des discours contradictoires ou différents, dépendamment de comment elle le fait, à qui qu'elle le fait, où et quand. Mais là, c'est vraiment... En fait, c'est ça, il a fallu être un peu flexible. Puis le sujet s'est vraiment orienté vers le changement d'espace. Puis toutes les problématiques qui sont survenues, par exemple, dans le nouvel espace qui est temporaire, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de système d'alarme, le service de nettoyage est difficile à transférer. Il y a tous des petits trucs comme ça qu'il a fallu répondre. Fait que dans le fond, l'exposition documente tous ces processus-là, toutes les problématiques, toutes les solutions qu'on est arrivé, solution, c'est un grand mot, là. Mais finalement, on a exploité ça, puis c'est devenu
le matériau.
Le matériel,
Ça, exactement. Puis on parlait aussi, parce que du coup, le texte c'est présent, effectivement, il y a ces draps blancs comme ça avec du texte imprimé dessus, noir sur blanc. Et tu me disais qu'il y avait, si on l'observe un petit peu en se baladant dans l'exposition, deux registres de texte. Il y a un texte qui est plutôt documentaire, entre guillemets, on va dire. Par exemple, des listes de tâches que tu dois réaliser pour que la galerie soit propre, donc nettoyer telle chose.
Pour la préparation
enlever,
c'est ça, de l'expo.
Exactement, hein, exactement. Puis on voit d'ailleurs qu'il y a certains échecs à ce niveau-là aussi, hein, parce qu'il y a par exemple enlever le scotch rouge sur les murs, et puis juste à côté, on voit un gros morceau de scotch qui n'a pas été enlevé. Et puis après, un autre registre qui est un peu plus loufoque, poétique peut-être.
Ben, pour moi, c'était de rejoindre un peu l'idée de la fête. On célèbre quand même le 52e anniversaire de l'École d'art. Tu sais, c'était l'idée de rire un peu de l'exposition, de remettre en question, tu sais, c'est quoi la pertinence de cette exposition-là? C'est quoi la pertinence de tout ce processus-là? Mm-hmm. J'ai l'impression que ça rejoint l'idée du carnaval où ce que on rit de ce qui est en place, puis on opère une espèce de déplacement pour mieux y retourner après. Mm-hmm. Puis l'humour, en fait, est assez utile dans cet angle-là. T'sais, ça permet de parler des choses qui seraient peut-être un peu délicates, mais avec une espèce de douceur ou une espèce de coating le fun.
Du glaçage.
Oui, du glaçage.
Ça marie avec de belles banderoles.
Oui. Oui,
c'est la fête.
C'est glacé, oui, avec une petite cerise.
Une petite cerise rouge.
Eh bien, merci beaucoup. Philippe, je vous encourage tous à aller voir cette exposition, donc présentée à la Galerie des Arts Visuels, et puis où il y aura d'autres événements, hein, d'ailleurs, qui sont en préparation, qu'on retrouve sur la frise chronologique, d'ailleurs. Hein.
Oui, rapidement.
Un colloque.
Oui, allez-y.
Un colloque le 1er octobre.
1er octobre, colloque, oui. Ben, vas-y, vas-y.
Non.
OK. 1er octobre, colloque sur la mascarade, avec quatre invités qui auront des pseudonymes, en fait.
Et qui seront masqués.
Pas tout à fait. 6 octobre, un atelier de médiation sur la médiation et un atelier de soir où ce que Joël Tremblay et un groupe d'étudiants et étudiantes en enseignement des arts sont invités à répondre. Et finalement, le 11 octobre, un triple lancement de livres avec les presses de l'Université Laval et une édition vatarienne. Entre autres, le volume 2, récapitulatif de la première année de la galerie qui t'offre pas 3 ans. Mmh. Oui.
Oh. Ben, merci beaucoup, Charlotte Cougnon, Philippe Gagnon, d'avoir été avec nous ce soir. Donc, nous, on se laisse avec une pause musicale avec la piste The Mouth of Darkness. Et au retour, c'est déjà le moment de l'agenda de la semaine.
Ça va vite.